VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
9h à Washington, 15h à Bujumbura. Bonsoir, bienvenue. Burundi, des rafales de tirs de mitrailleuses entrecoupées de tirs d'obus résonnaient à proximité de la radio et de la télévision nationale burundaise à Bujumbura ce jeudi, en début d'après-midi, selon un journaliste de l'AFP à qui un général putschiste a confirmé qu'une offensive avait été lancée. Les tirs sont intervenus immédiatement après la diffusion d'une allocution sur la RNTB du président Pierre Nkurunziza, bloqué en Tanzanie depuis le début de la tentative de coup d'État contre lui hier. Cela dit, au lendemain donc du coup d'État contre Pierre Nkurunziza, la confusion régnait toujours ce matin à Bujumbura après de violents combats entre militaires putschistes et loyalistes, avec plusieurs médias burundais visés dans la bataille. Le porte-parole des putschistes, Venon Ndabanaze, a assuré que son camp contrôlait pratiquement toute la ville, mais 24 heures après l'annonce de la destitution de Pierre Nkurunziza, toujours absent du pays, par le général Godefroy Niambaré, ex-compagnon d'armes du président, il était toujours impossible de dire qui détenait réellement le pouvoir. Des policiers déployés dans le centre de Bujumbura refusaient de dire à qui ils obéissaient, comme les militaires postés plus en périphérie, au point stratégique menant vers les quartiers au cœur depuis près de 3 semaines des manifestations d'opposition à un troisième mandat au président qui ont débouché sur l'annonce du coup d'État hier. Je vous propose d'écouter Willy Nyamitoué, il est le porte-parole du président Pierre Nkurunziza.
D'abord, c'est qu'il y a eu des mutins qui ont voulu faire un coup d'État et le putsch a échoué. Et maintenant, les forces loyalistes sont en train de tout faire pour amener la situation dans l'état normal.
Aujourd'hui, qui contrôle la radio-télévision nationale burundaise ?
C'est l'armée loyaliste.
Et où se trouve Pierre Nkurunziza ?
La question d'où se trouve le président de la République, c'est une question d'ordre sécuritaire. Je ne suis pas autorisé à vous répondre à cette question.
Mais est-il rentré sur le territoire burundais ?
Je ne suis pas autorisé à vous répondre sur cette question d'une façon explicite.
Qu'est-ce que vous dites à la communauté internationale concernant cette tentative de coup d'État ?
D'abord, nous félicitons la communauté internationale qui a pu condamner ce putsch, l'Union, la communauté de l'Afrique de l'Est, les États-Unis eux-mêmes, l'Union européenne, et surtout cet appel au respect de l'ordre constitutionnel. Donc, jusqu'à présent, le président de la République du Burundi, c'est M. Pierre Nkurunziza, et ce jusqu'au 26 août 2015.
Que pensez-vous du général Niambaré ?
Alors, le général Niambaré qui a fait ce putsch, mais ce que je pense de toute personne qui pense encore à la voie de putsch ou à la voie de coup d'État, mais c'est ce que pense aussi la communauté tant nationale qu'internationale. C'est les temps des coups d'État sont révolus. Il faut tout simplement que les gens reviennent à la raison, que les gens sachent que l'ordre constitutionnel doit être plutôt maintenu. Un officier supérieur de l'armée est censé protéger l'ordre constitutionnel et non pas être une pierre d'achoppement à l'ordre constitutionnel.
Donc encore une fois, ce jeudi matin, vous démentez tout coup d'État réussi à Bujumbura.
Il n'y a pas de coup d'État réussi à Bujumbura. Il y a eu tentative, ce qu'on appelle, nous avons appelé une farce, parce que des gens qui se réveillent le matin, qui disent qu'ils peuvent prendre le pouvoir par les armes, ce n'est qu'une fantaisie. Donc le coup d'État, c'est une fantaisie que nous avons vue ici à Bujumbura.
Willy Nyamitoué, porte-parole de Pierre Nkurunziza, joint par Nicolas Pino. Le général Niambaré, qui revendique la prise du pouvoir au Burundi, est un ancien compagnon d'armes du président Nkurunziza. Il est comme lui issu de la rébellion qu'était le CNDD-FDD avant de devenir parti au pouvoir au sorti de la guerre civile. Elavi Ndoura, d'origine burundaise, est enseignante à l'université George Mason aux États-Unis. Elle situe les attentes par rapport à un nouveau pouvoir militaire au Burundi.
Une déclaration ne veut pas dire que toutes les institutions sont bien organisées pour pouvoir relancer le pays qui est chuté il y a 3-4 semaines. J'attends, comme tout le monde, mais je m'attendais à un changement quelconque parce que la population n'est pas contente. On ne peut pas démontrer pour toujours.
Le coup d'État a été accueilli par une liesse populaire dans Bujumbura. Et la présidence a néanmoins dit que ce coup d'État était une plaisanterie. Mm-hmm. Si jamais il y avait de la résistance, craignez-vous qu'il y ait des grabuges sur le terrain?
Moi, j'espère que non, parce que le peuple burundi a suffisamment souffert. S'il faut y avoir un changement, même si le président Nkurunziza n'était pas prêt à négocier un changement paisible, j'espère que n'importe qui va pouvoir se réorganiser les institutions du pays pourra faire ça sans violence et paisiblement, d'une manière inclusive, ce qui est le problème au Burundi.
Alors, on se souvient qu'il y a eu une guerre civile dans le pays fondée sur les deux ethnies majoritaires du pays.
Right.
Est-ce que ce coup d'État ne pourrait pas faire craindre une résurgence de ces clivages?
Peut-être pas. Et je parle d'un grand espoir. Je pense que les problèmes burundais se sont compliqués. Est-ce qu'on peut dire que les problèmes ethniques ont complètement disparu? Absolument pas. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est juste le problème ethnique qui inquiète la population burundaise ou la communauté internationale? Je ne pense pas. Il faut vraiment chercher à comprendre la complexité et la gravité des problèmes multiples qui compliquent la situation burundaise.
Alors, un coup d'État, c'est le scénario qu'on attendait le moins. Est-ce que vous pensez que l'armée peut remettre la démocratie sur le rail dans ce pays?
Moi, j'espère qu'ils vont être sages. Sages dans le sens de la sagesse burundaise et la sagesse africaine. Plutôt que vraiment de s'accaparer du pouvoir au premier temps, ça ne va pas marcher. Et ça ne va pas marcher avec le peuple, je suppose. Je pense bien. Parce que le peuple est fatigué. Et puis le peuple a de mauvaises mémoires des régimes militaires aussi. Les mémoires ne sont pas encore effacées. Le peuple burundi souffre encore des traumatismes du passé. Je pense qu'il faudrait peut-être utiliser ce moment comme une opportunité, une ouverture pour engager les Burundais de toute ethnie, de tout niveau, de tout genre et de tout âge dans un dialogue continu afin que les problèmes qui harcèlent le pays puissent être discutés paisiblement et sans violence et que les voix des Burundais puissent inspirer ce qui va se passer ensuite.
Et la vie Indoura, enseignante à l'université George Mason en Virginie, aux États-Unis. En République démocratique du Congo, deux nouveaux massacres ont fait 23 morts près de Beni, au soir même d'une visite du ministre de l'Intérieur congolais dans cette ville de l'Est de la RDC pour tenter de calmer la colère d'une population exaspérée par des mois de violence. Le Nord Kivu est déchiré par des conflits armés depuis plus de 20 ans et accueille la plus grande part des quelque 20 000 soldats déployés dans le pays par la mission de l'ONU au Congo, la MONUSCO. Depuis le début du mois, la région de Beni est victime d'un regain de violence imputable aux ADF. Celui-ci a suivi l'annonce de l'arrestation de leur chef, Djamil Mukulu, en Tanzanie. C'était au mois d'avril dernier. Et toujours dans la région, l'opération Ville Morte continue, donc à Beni, dans l'est du pays. Pour une troisième journée consécutive, hier, les écoles et les commerces, notamment, sont restés fermés, affirme Gilbert Kambalé, le président de la société civile de Beni. L'opération Ville Morte vise à protester contre l'incapacité des autorités à protéger les civils face aux exactions et massacres perpétrés par les rebelles ougandais des ADF.
VOA Afrique en direct de Washington.
Crise malienne, la rébellion à dominante Touareg a paraffé aujourd'hui à Alger l'accord pour la paix au Mali du 1er mars. C'est ce qu'a constaté l'AFP, mais les rebelles ont martelé que de nouvelles négociations seraient nécessaires avant la signature d'un accord définitif. Un représentant de la CEMA a affirmé que de nouvelles négociations auraient lieu avant une signature définitive. Le document avait été paraffé à Alger le 1er mars par le camp gouvernemental, pas par la rébellion qui, après avoir consulté sa base, avait indiqué ne pas pouvoir l'avaliser en l'état. Le texte prévoit la création d'assemblées régionales, mais comme le souhaitait Bamako, ni autonomie, ni fédéralisme. La CEMA réclame la reconnaissance officielle de l'Azawad comme une entité gérée par une assemblée interrégionale et un quota de 80% de ressortissants de l'Azawad dans les forces de sécurité. Au Nigeria, au moins 3 soldats et 6 miliciens ont été tués hier soir à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, lors d'une attaque du groupe islamique Boko Haram. Les islamistes ont, de leur côté, subi de nombreuses pertes, selon un responsable de la milice d'autodéfense locale. Jean-Roger Billon à ce microphone. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un autre nouveau bulletin sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.